On accueille Caroline au 39-21. Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
C'est la soirée des Carolines ce soir.
C'est la soirée des Carolines.
Vous êtes la troisième Caroline de suite. C'est assez incroyable.
C'est assez incroyable. Ça pourrait être les malheurs de Sophie, mais ce sont les malheurs des Carolines.
Oui, un petit peu, malheureusement. D'où nous appelez-vous, Caroline ?
Je vous appelle de Tours.
De Tours, d'accord. Et quel âge avez-vous ?
J'ai bientôt 42 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi ?
Alors, j'ai envoyé une nuit d'insomnie, une énième nuit, une capture d'écran d'un post que j'ai mis sur les réseaux sociaux faisant état d'une situation que je vis maintenant depuis 2 ans et demi.
Mmh.
En termes de malheur, ma situation est tristement banale. J'ai été victime de violences conjugales. Je suis avocat et mon agresseur est également avocat.
D'accord.
Nous travaillons dans le même barreau. Voilà. Et au sortir de mon épisode dépressif et de dépression lié à
ces événements,
à ces violences, mmh. Les choses n'ont pas bougé ni ont été prises en charge comme je l'aurais espéré. Et à force d'inaction et de ce que je pouvais attendre en fait des instances, j'ai mûrement réfléchi mes actes et ce que je pouvais faire. Et je me suis décidée voilà, à libérer ma parole avec l'aide de mes proches et en discutant de gauche et droite aussi pour continuer mon travail de résilience et de reconstruction, voilà. Parce que les choses sont excessivement compliquées, mais ça, je pense que, ayant écouté une oreille excessivement attentive des gens qui avaient été, comme moi, victimes de violences conjugales, je ne vais pas vous apprendre ce qu'il arrive, en fait, dans la tête de quelqu'un qui a vécu ça et à quel point votre vie peut changer et à quel point c'est très, très, très compliqué.
Bien évidemment. On évoque souvent sur cette antenne ces violences conjugales, malheureusement trop souvent d'ailleurs. Dans quel contexte elles ont lieu, ces violences en fait ? Est-ce que c'est sur fond d'alcool ? Est-ce que,
Non, du tout. Le contexte, il est d'être tombé sur quelqu'un et après coup, voilà, vous en apercevez. Qui est un pervers narcissique. Moi, je rentre vraiment dans les carcans d'une histoire excessivement, malheureusement, banale hein, et autre, et d'être complètement, en fait, sous l'emprise de quelqu'un, de vous isoler complètement, de plus voir vos amis, oui. De plus voir vos proches, de plus réfléchir, de plus penser par vous-même, de plus pouvoir dire non, et vous finissez par complètement tomber. Et très rapidement, en fait, les premières violences psychologiques étaient là. Et puis après, il y a eu des faits de violence. Et puis comme beaucoup de mes proches me disent, heureusement pour moi, ça n'a pas duré très, très, très longtemps, parce que dans mon activité professionnelle, je vois des femmes. Et aussi des hommes qui peuvent passer leur vie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute leur vie, avec des relations qui sont excessivement toxiques et à subir, et elles ne veulent pas en sortir. Quand je dis « elles ne veulent pas », je dis « elles et ils ». Ça touche tout le monde. Mmh. Et ma démarche aussi, elle est faite aussi pour dire que ça arrive voilà, dans tous les milieux sociaux.
Bien évidemment.
Il n'y a pas de règles prédéfinies. Vous pouvez être médecin, avocat, boulanger, ébéniste. Ça peut arriver n'importe où et n'importe quand. Voilà.
Est-ce que l'auteur, même s'il est avocat, est-ce que l'auteur de ces violences psychologiques et ensuite physiques, a-t-il été condamné pour ça ?
Oui, il a été condamné. J'ai suite à l'agression, tout de suite fui et été cherché pour moi de ce que je pensais être le soutien en fait des services de gendarmerie et en un très de temps en fait j'ai été pris en charge. Bon, il m'est arrivé quand même pas mal de soucis. Et si je veux parler aussi aujourd'hui, enfin, et m'exprimer, c'est aussi pour mettre en avant, parce que moi, c'est mon histoire, mais moi, je veux parler des autres aussi, parce que c'est mon métier de parler des autres et de porter la parole, des dysfonctionnements, en fait, qu'il arrive auprès de... des personnes qui, comme moi, voilà, cherchent de l'aide, oui, et du secours.
Oui.
Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand vous êtes auteur de violences conjugales, quand vous êtes mise en cause, bah, déjà, vous êtes placé en garde à vue. On vous emmène à l'hôpital pour voir si votre état de santé est compatible avec le régime de la garde à vue.
Oui.
On vous emmène voir un psychiatre, on vous emmène voir un psychologue, et vous êtes entouré de gendarmes ou de policiers. Quand vous êtes victime de violences conjugales, comme ça a été mon cas, vous vous retrouvez toute seule dans la nuit, à 1h du matin, dans votre voiture, et on vous indique d'aller aux urgences. Donc, vous vous rendez aux urgences, vous attendez, vous avez votre téléphone portable avec vous, en fait, qui est votre seul ami, voilà. Vous attendez de longues heures. Vous avez une gentille infirmière qui est à vos côtés pour vous dire, parce que vous êtes en train de pleurer, qu'il ne faut surtout pas avoir honte. De toute façon, votre cerveau est tellement pété que vous comprenez absolument rien de ce qui se passe. Et puis après, s'ensuit les allers-retours sur les auditions, les confrontations, les perquisitions dans mon cas. Et en fait, vous êtes toujours tout seul. Voilà. Ce qui n'est pas la même chose que quand, malheureusement, pour celui qui est gardé à vue, qui lui, il est bien entouré et il n'y a pas de souci, quoi. Je trouve ça inconcevable à l'heure actuelle que quelqu'un qui vient de se faire taper dessus, d'accord, puisse être lâché, oui, dans la nature, oui, et ne soit pas accompagné. Par la suite, en fait, c'est le long chemin, et pour moi, ça a été un très, très, très long chemin, parce que la première fois que c'est arrivé, moi, il était pour moi inconcevable, et je ne pouvais pas l'admettre, parce que j'étais dans un délire profond, d'aller déposer plainte et de dire « je suis victime de violences conjugales parce que je ne voulais pas de regard sur moi ». Voilà, rien de tout ça. Et je n'y arrivais pas et c'était beaucoup, beaucoup trop dire. La deuxième fois, au regard des faits, je ne pouvais pas faire autrement. Et vous êtes suivi par des associations. Vous allez en fait dans les mêmes associations que vos propres clientes. Et puis, finalement, après, à un moment donné, vous vous lâchez prise. Moi, j'ai de la chance parce que je viens d'un milieu social qui est plutôt aisé, que j'avais des amis, que j'ai de la famille, et que j'ai été entourée. Mais je vois des personnes, en fait, qui se retrouvent dans un état d'isolement qui est terrible. Absolument terrible et tellement dévastateur. Si vous n'avez pas d'argent, bah, en fait, vous fuyez et vous vous retrouvez dans des endroits miteux où, en fait, vous avez des bons logements qui sont distribués au compte-gouttes parce qu'il n'y a pas forcément de place. Et puis, bah, on vous met là et puis vous n'avez plus rien et vous ne pouvez même plus retourner chez vous, quoi. Ça, c'est des situations en fait, qui sont catastrophiques et je vais le dire comme je le pense, les Grenelles sur les violences, pour moi, c'est de la réformette qui ne prend pas en considération en fait, tout ce qui se passe. Il y a des choses qui ont été faites, mais c'est insuffisant maintenant, mais véritablement insuffisant. C'est le constat que j'en tire.
D'accord. Et vous êtes au cœur en plus hein, de tout,
voilà,
ça.
Puisque... Je suis au cœur de tout ça. J'ai été d'un côté et je l'ai vécu de l'autre. Ce qui a été terrible dans ma situation, c'est que je parle toujours de mon agresseur. Il a continué en fait à travailler et donc en fait comme on travaille dans le même barreau, même si les avocats peuvent aller plaider partout en France, le barreau auquel j'appartiens est tout petit et le palais de justice est pas très grand non plus. Donc je me suis retrouvée beaucoup de fois m'a confrontée en fait à mon agresseur et ça a été beaucoup beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a le phénomène de terreur en fait qui revient, parce que vous avez peur de votre peur, parce que vous êtes terrifié, parce que vous vous mettez à trembler de pouvoir simplement travailler, quoi. Ça a été cauchemardesque et à l'heure actuelle, ça l'est toujours parce qu'il est toujours en activité.
Comment se fait-il qu'il soit toujours en activité? Comment vous l'expliquez?
Alors, comment je l'explique? C'est là où, en fait, les cordonniers sont les plus mal chaussés, parce que pour les victimes de violences conjugales, il y a encore beaucoup de travail à faire vis-à-vis en fait de la procédure disciplinaire. Le barreau auquel j'appartiens a fait le choix d'attendre qu'il soit condamné définitivement. Il n'y a pas eu de mesure en fait qui aurait pu être prise au départ et qui était possible, hein, en fait, des mesures conservatoires prises par l'instance ordinale. Et en fait, ils ont attendu, ça a été le choix, que la décision définitive soit prise. Alors moi, je suis donc été en couple avec un père d'un narcissique, donc il a été au bout de ce qu'il pouvait faire.
Oui, oui.
Et puis, vous avez une première audience, première instance au tribunal correctionnel. Vous avez la procédure d'appel. Et puis, il a fait un pourvoi en cassation. Donc, en fait, on en est rendu à des faits du 1er septembre 2019 pour une décision définitive au 21 octobre de l'année dernière. Voilà.
Et le pouvoir en cassation, ça y est, vous êtes au bout, il a été...
C'est fini. En fait, il y a eu une ordonnance de déchéance parce qu'il n'a jamais déposé de mémoire et aucune écriture n'a été prise. Donc, je rentre des détails un peu techniques, mais voilà, il n'y a rien eu. Mais il a toujours laissé la carte du temps et en pensant qu'en fait, ça allait pouvoir perdurer. Voilà.
Oui.
Au-delà de ça, je prends la parole ce soir aussi et peut-être un peu véhément de ma part, je voudrais en fait montrer du doigt en fait tous les dysfonctionnements. Étant en couple avec lui, je partageais aussi le même cabinet que lui, donc j'étais engagée sur un bail tant personnel que professionnel.
Oui, oh là là, vous étiez...
Voilà, mais
ouais.
Vraiment dedans, quoi.
Oui, dedans.
Alors, je le dis aussi peut-être pour les gens qui nous écoutent, quand vous êtes, quand vous êtes pas profession libérale et... partager un bail avec quelqu'un, le simple fait d'avoir une ordonnance de protection que vous allez en fait signifier en fait à votre bailleur vous permet de vous désolidariser en fait des loyers. Et donc comme ça, au moins vous êtes libéré d'un poids si vous devez partir de votre domicile, vous n'avez plus à payer. Pour le bail professionnel, ça n'existe pas. Donc moi, je me suis retrouvée dans une situation face à laquelle j'ai dû fuir. Donc je ne pouvais pas rester dans la maison dans laquelle j'étais parce que j'ai fait des crises d'angoisse et des crises de panique terribles. Je dormais avec mes téléphones, avec mes jeux de clés, enfin, pas ces détails. Donc, ça a un aspect financier. Et puis, quand vous êtes pris à la gorge et que vous devez aussi payer votre loyer pour payer l'endroit où vous travaillez, endroit dans lequel moi, on m'a carrément exfiltré parce que j'ai dû tenir à peu près une heure pour récupérer un dossier. Après, j'ai refait une crise d'angoisse parce que j'avais tellement peur qu'il revienne. Là, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de système en fait, législatif pour protéger la victime. Et là encore, je suis tombée sur quelqu'un en fait, qui n'en démordait pas et qui m'a véritablement pourri la vie tant qu'il pouvait me la pourrir, qui n'a pas payé en fait, l'intégralité du loyer, dont j'ai dû payer sa part. J'ai dû payer tout. Je me suis retrouvée dans une situation
il est allé
dans laquelle...
Bout, lui, au bout du bout.
Au bout du bout. Sachant que pendant plusieurs mois, vous avez le cerveau en vrac, hein, je vais le dire comme ça, vous n'arrivez plus à conclure, vous n'arrivez plus à recevoir vos clients. Il a fallu que je retrouve en fait quelqu'un pour m'accueillir. Donc, j'ai eu de la chance, moi j'ai eu un merveilleux confrère qui m'a accueilli et qui a pris grand soin de moi, qui a été d'une bienveillance incommensurable et qui a fait qu'aujourd'hui je vais beaucoup mieux. Et tout ça pour vous dire qu'en fait vous vous retrouvez impacté vraiment financièrement et que c'est terriblement compliqué. Aujourd'hui, pour vous dire, en fait, la situation est hallucinante et je n'en peux plus, véritablement, je n'en peux plus. Ce que je disais à votre aimable collaboratrice quand je l'ai eu au téléphone il y a à peu près une dizaine de jours, c'est que moi, mon travail, il n'est pas terminé. Aller bien, c'est pas encore le mot qui me qualifierait. Et que je me suis retrouvée, donc il y a une quinzaine de jours, dans le palais de justice à 8 h du soir, voulant aller prendre l'air. Et en fait, il était dans l'entrebâillement de la porte et je ne pouvais pas sortir. C'était impossible pour moi. Je ne pouvais pas faire un mètre et je me suis retrouvée bloquée et dans cette situation-là. Et donc, la situation perdure. Et à ce jour, en dépit du fait qu'il soit condamné, je me retrouve en fait, j'appelle à l'aide de mon ordre et les choses ont véritablement beaucoup de mal à bouger. Donc, je pense qu'il pourrait aussi s'agir en fait de refondre, de repenser en fait
la
procédure disciplinaire.
Vous faites allusion à quelque chose d'extrêmement grave, encore une fois, et d'un dysfonctionnement aberrant. C'est qu'un avocat qui, il me semblait en plus qu'un avocat qui se retrouvait avec un casier judiciaire, en tout cas qui était condamné à quelque chose.
Lui, il a une dispense de B2, donc la décision pénale est tombée. Mais la faute déontologique qu'il a commise, d'accord, et qui est imprescriptible, pour l'instant, il n'est pas sanctionné.
Le conseil de l'ordre.
Il s'est rien passé, quoi.
Oui, mais le conseil de l'ordre est parfaitement au courant. Le bâtonnier et le conseil de l'ordre est parfaitement au courant des actes qu'il a commis.
Ah, alors, tout le monde n'était pas au courant. Et en fait, en publiant mon poste, puisque le temps a passé que le Conseil de l'Ordre se renouvelle tous les deux ans, il y avait certains des confrères qui n'étaient pas au courant de ce qui m'était arrivé.
Comment, d'ailleurs, la corporation a-t-elle accueilli cette affaire ? Est-ce que vous vous êtes senti soutenu, vraiment majoritairement, par vos confrères ? Ou est-ce qu'il a fait un travail de sape ? Mon frère est avocat, donc je vois un peu comment ça marche. Hein. Ouais, tout le monde se connaît.
Alors, dans votre question, vous avez votre réponse. La corporation est là et ça a été très compliqué pour moi. Alors déjà, j'arrivais pas à parler. J'ai des confrères qui ont été excessivement bienveillants pour ceux à qui j'arrive à me confier. Après... l'aide que j'aurais pu attendre et j'ai attendu véritablement parce que je suis assez légaliste et j'ai vraiment pris le temps, la mesure et en me disant à un moment donné c'est plus possible, je comprends pas le comportement. Le soutien, je vais vous dire à l'heure actuelle, non, j'en ai pas. J'ai pas de soutien en fait. De la personne en fait qui devrait m'en donner. Voilà. Je vais vous dire en fait le confrère qui m'a accueilli, qui m'a pris sous son aile, qui m'a au début installé, pris en charge et autres, a été mon avocat et il a déposé une plainte déontologique pour que les choses bougent. Ce qui s'est passé, c'est que le bâtonnier en exercice n'était pas le même bâtonnier que celui qui a eu à connaître des faits de violence quand ils sont arrivés, a mis moins de temps à le poursuivre déontologiquement, lui, parce que il a défendu sa cliente et il lui a demandé de faire son travail, ce à quoi le bâtonnier l'a mal pris, et il y avait aussi une histoire de plaque qui n'était pas conforme. Donc, le bâtonnier en exercice a mis moins de temps, en fait, à poursuivre mon avocat à moi que la personne qui m'a agressée. Je sais, c'est fou, mais c'est ce qui est arrivé.
C'est incroyable.
C'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Ce qui arrive à l'heure actuelle.
Vous avez évoqué le profil d'un pervers narcissique et on sait que la spécialité aussi évoquée lorsqu'on a vraiment affaire au pervers narcissique, enfin en tout cas à la définition même du pervers narcissique, c'est que... généralement, le pervers narcissique en société cultive une image
très positive, charmant,
très sociable, très sympathique, en tout cas au-dessus de tout soupçon.
Oui, parfaitement.
C'est ce qu'il a fait.
Il a joué aussi de son charme, d'une intelligence en fait qu'il maîtrise parfaitement vis-à-vis des autres. Et puis il a aussi instauré un espèce de climat en se mettant dans un piédestal en disant de toute façon, s'il se passe quelque chose, la procédure, je la regarderai d'un très bon œil et vous inquiétez pas, je sais quoi faire. Quoi.
Qu'entendait-il par là ? Je ne comprends pas.
D'être technique, en fait, sur toute faute qu'il pourrait faire sur la procédure qu'il
pourrait engager. D'accord, pour la faire annuler.
Voilà. Pour la faire annuler. Ouais, exactement. Mmh.
Sauf que visiblement, voilà. Il n'y est pas arrivé.
Sauf que pour l'instant, la procédure, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'on peut parler de la place de la victime dans le cadre du procès pénal, qui peut se réduire parfois à peau de chagrin, d'accord ? Parce que tout détourné en fait vers la personne qui est mise en cause, ou prévenue ou accusée, mais dans la procédure disciplinaire en fait concernant les avocats, moi je n'existe pas quoi. Je n'existe pas.
Vous n'existez pas et pourquoi ? C'est un parti pris ou...
Je pense que c'était un parti pris parce qu'au regard des éléments qui étaient retenus contre lui, il n'y avait pas nécessairement nécessité de m'entendre, d'une part, en tout cas aux prémices. Je parle de l'ancien bâtonnier, je ne parle pas du nouveau bâtonnier. Et le nouveau bâtonnier, en fait, quand j'étais reçue la seule fois, je peux vous assurer qu'en fait, je n'ai jamais aussi fortement tenu un fauteuil de toute ma vie avec ma main, tellement je n'ai pas compris en fait la manière dont on exposait les choses.
C'est-à-dire
pour vous dire, en fait, à l'issue, j'ai reçu un courrier d'avertissement parce que je n'avais pas payé la quote-part des loyers sur ce bail-là.
C'est tout ce qui les intéressait.
Voilà. Donc, en fait, quand on s'attaque aussi à la corporation, ce que j'ai fait en publiant mon poste, eh ben, en fait, les gens ne comprennent pas. Moi, je voulais du soutien, véritablement. J'ai même un confrère qui en était étonné et qui appelait ça, en fait, le marais putride. Et ben, moi, je nage toujours dedans, dans ce marais putride.
On est là, à nouveau, dans le cadre d'une affaire ou une corporation telle que celle des avocats, mais on a parlé sur cette antenne des dentistes, des médecins qui se serrent les coudes tous aux abris, pas de vagues. C'est quand même incroyable
pas
d'entendre
de vague,
ça.
Pas de vagues. Une de mes meilleures amies m'appelle en me demandant de ma situation, en fait, de mon dossier, elle m'appelle la patate chaude.
La patate chaude. Bah, c'est exactement ça, en fait.
C'est ça. C'est exactement ça.
C'est fou.
Personne ne veut se saisir. Les seules personnes qui se sont saisies, en fait, de ma situation, c'est le parquet, c'est la procureure, c'est la bienveillance des substituts, c'est la bienveillance des greffiers, des greffières, c'est la bienveillance des magistrats. J'ai été plus soutenue par les magistrats
c'est plutôt rassurant.
Que par certains confrères.
C'est plutôt rassurant.
Les gens ont été bienveillants,
oui.
Mais véritablement bienveillants. J'ai des gens avec qui j'ai, au regard de mon histoire, parce que ça rapproche, voilà, j'ai des gens avec qui j'ai lié des amitiés qui sont maintenant indéfectibles. Parce que ces gens-là font du bien, et heureusement qu'ils existent, et je pense qu'elle se reconnaîtra.
Et les confrères qui vous ont soutenu sont un peu dépestiférés ou pas depuis ?
Non, du tout.
Non,
du
ça
tout,
va.
Du tout. Ah, du tout.
Non, mais
tout,
ça aurait pu, tout. Ça aurait pu.
Non, c'est il n'y a pas de groupe en fait.
D'accord.
Je vois tout à fait ce que vous pouvez entendre, mais non, loin de là, loin
d'accord.
De là.
Parce que c'est un barreau quand même assez important. Vous êtes.
Alors, je vous dis que je vous appelle le tour, mais en fait, je n'exerce pas là. Hein.
D'accord.
Je
ok. Pas là.
Ouais,
d'accord.
Voilà.
Ben, ça nous laisse encore. Mais ça, ça ne vient que mettre en lumière ce qu'on évoque souvent sur cette antenne. Mmh. C'est des professions libérales, des corporations qui devraient faire le ménage parce qu'il ne devrait pas en être autrement, surtout.
Il devrait faire le ménage. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est que la poussière est mise sous le tapis. Et moi, j'ai pris la décision parce que j'en ai besoin. Voilà, ça fait partie aussi de...
Bien sûr, de votre réparation.
De ma résilience, de ma réparation. Et je prends mon courage à deux mains. Et je prends le tapis, là, ce soir. Et je le secoue fortement. Voilà. J'en ai besoin. Et je voudrais et je souhaiterais véritablement, en fait, je pense qu'il y a des démarches à faire parce qu'il n'y a pas que les avocats, c'est toute profession libérale.
Bien sûr.
Quand vous êtes victime de violences conjugales, en fait, bah, il y a tout un arsenal législatif pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir vous protéger tant psychologiquement, d'accord, que financièrement, que vous soyez accompagné et de plus large, qui est véritablement en fait des professionnels qui soient à vos côtés, qui y ait des cellules d'écoute et que vous ne vous retrouviez pas toute seule comme ça a été mon cas un soir à 1h du matin avec les mains tremblantes à essayer de faire 15 km et que vous n'arrivez pas à conduire parce que vous êtes toute seule et qu'il faut aller à tel endroit parce que vous avez mal. Ça, c'est plus jamais, quoi.
Oui, mais il y a tellement de choses à faire dans ce contexte pour les victimes et il est certain que les gendarmes ou les policiers ne pensent pas à ça une seule seconde.
Alors,
il y en a, certains.
Des formations, il y en a qui sont très, très au fait, en fait, de tout ce qui est dossier de vif, hein, violence intrafamiliale et plus précisément sur les violences conjugales. Enfin, j'ai un message à apporter. Un, ils existent. Deux, ceux qui ont été formés et qui ont une écoute attentive sont surtout pas là en fait pour juger les gens, ils sont là pour les accompagner,
oui, oui.
Ils sont là pour recueillir par audition en fait leurs témoignages, mais eux-mêmes ils sont stupéfaits en fait de revoir repartir la victime, de devoir aller des fois accompagner une victime, et je pense à une personne en fait qui m'est proche et qui a un uniforme, qui a dû un soir accompagner une victime, qui avait un bon logement et qui l'a accompagnée en fait dans un hôtel qui était tenu, alors ça c'est malheureusement pas de bol, par le meilleur ami
de l'agresseur.
Celui qui venait de l'agresseur. Mmh. Donc, retour, voilà. Et là, en fait, il faut trouver une autre solution en urgence. Mmh.
Dans la démarche que vous faites aujourd'hui de secouer le tapis, en termes de procédure, est-ce qu'il va y avoir quelque chose que vous allez déclencher au niveau de l'ordre des avocats dont vous dépendez ?
Apparemment, il y aurait quelque chose de déclenché, mais il n'y a pas de transparence en fait, et je suis avisée de pas grand chose, quoi. Mm-hmm. Et c'est ça aussi en fait.
Qu'est-ce qu'il risque en fait ?
Ça va pas.
Qu'est-ce qu'il risque ?
La radiation.
D'accord.
La radiation. Oui. La radiation et c'est quelqu'un qui a aussi un background disciplinaire, donc c'est pas la première fois qu'il passera devant le conseil régional de discipline. Donc, oui, effectivement, là, ça sera la radiation pour lui.
Bon, il y a quand même de fortes chances que ça aille au bout, hein, cette histoire, Caroline.
Il y a de fortes chances que ça aille au bout, mais le parcours du combattant, parce que c'est un véritable parcours du combattant, si on ne le dit pas, si on ne
le porte pas,
si on laisse les choses comme ça, moi, suite à mon poste, en fait, je pensais qu'en fait, mon cas était quand même peut-être isolé. Je me suis trompée. J'ai eu des retours de consoeurs qui m'ont envoyé soit des messages, soit qui m'ont appelé. Et je ne suis pas la seule. Voilà, je ne suis pas la seule.
Vous n'êtes pas la seule avocate à avoir subi
des violences. Exactement dans la même situation, c'est-à-dire avec un compagnon ou un mari, avocat, même barreau, etc.
Mais vous faites bien en plus de porter haut votre parole et le récit de ce qui vous est arrivé, parce que ce soir, beaucoup d'auditrices et d'auditeurs nous écrivent leur surprise d'entendre, parce qu'on a eu il y a quelques jours Géraldine qui exerçait une profession libérale aussi, mais tout autre dans le commercial, évoquait les violences dont elle a été victime. Et on voit que cela, comme vous l'avez dit, touche tous les milieux et que ce ne sont pas que des petits gens qui sont touchés par ce type de violence, mais que dans tout niveau social, cette violence existe.
Oui. Elle existe partout. Moi, qui fais beaucoup d'ordonnances de protection et de la défense pénale de victimes, il n'y a pas de règles. Voilà, ça transcende tout. Ça peut être aussi des gens de 60 ans, des gamins de 18 ans. Il n'y a pas de choses préétablies. Donc en fait, il faut que ça passe aussi par l'éducation, par la parole des parents, par la parole aussi des professeurs, de l'école, la sensibilisation, enfin partout, quoi. Bon, je vais vous dire quelque chose. Si le poste, je l'ai lancé. Bon, j'ai 42 ans, je fais les réseaux sociaux. Moi, j'ai découvert ça quand j'avais une vingtaine d'années. Moi, j'ai des enfants qui ont une vingtaine d'années et qui sont nés avec les réseaux sociaux. Moi, ma fille de 20 ans m'a dit, mais maman, vas-y, vas-y, maman,
Bien sûr.
fais-le, fais-le, fais-le.
Et vous avez bien raison, je vous le dis, et on suivra ça de très près. Hein. Vous savez, vous connaissez le chemin, Caroline. Maintenant, vous pouvez nous rappeler, nous tenir au courant de la suite des événements. Il a hâte de ne plus vous approcher, je suppose, cet homme.
Alors, la décision définitive, oui, il a ordre de ne plus me rapprocher, mais là où le bas blesse, et c'est bien pour ça qu'en fait on peut se retrouver dans le même palais, c'est que la décision qui a été prise, c'est interdiction de contact, sauf les strictes nécessités de l'activité professionnelle.
Ben oui.
Je vous laisse entendre ce qu'on peut dégager par les strictes nécessités de l'activité professionnelle.
Ce qui veut dire que vous pouvez même vous retrouver opposé à lui dans une affaire.
Mais tout à fait, bien sûr.
À suivre. À suivre,
alors,
en tout cas.
Je n'ai pas la force. Voilà.
Mais je me doute. À suivre, vous savez qu'on est là, donc vous nous appelez quand vous voulez pour communiquer sur cette histoire et on est de tout cœur avec vous, Caroline. Merci mille fois,
je,
en tout cas.
Je vous remercie pour votre écoute. Et
je vous en prie.
Voilà, je voulais porter une parole aussi pour que il y a quelqu'un, un député qui vient nouvellement d'être élu, se dise qu'il y a franchement du travail à faire. Voilà.
Et
c'est aussi mon propos.
Espérons que ce travail va être fait. Merci et bonne nuit et courage à vous, Caroline.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.